notre parcours à travers ce document, l'espérance qui ne déçoit pas et qui vient nous rejoindre dans cette dynamique de l'année jubilaire, en lien aussi bien sûr avec ce qui est vécu en ce sanctuaire depuis un peu plus de 360 ans. Mais pour ce matin, je vous propose de réfléchir un instant sur ce thème « En marche vers la rencontre avec le Seigneur de gloire ». Le fameux « En marche », il appartient vraiment à l'histoire du peuple de Dieu, ce « En marche ». On a déjà évoqué à plusieurs reprises la première invitation adressée à Abraham, notre père dans la foi, c'est « Marche ». Ne reste pas installé, établi là où tu es, même si tu as de grands biens, et la Bible en fait l'énumération de ces grands biens, mets-toi en marche. Marche en ma présence. La destination n'est pas connue d'Abraham. Il se contente de cet appel du Seigneur, en marche, mets-toi en marche, et il se met en marche. Et il prend tout ce qui est à lui et toute la caravane suit. Et on peut constater que tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, il y a cette dimension de la marche, les 40 années qu'on a évoquées déjà, de marche à travers le désert. Là aussi, il a fallu quitter. Alors bien sûr, on a quitté une terre où on était en esclavage, où le travail était rude, mais une fois dans le désert, ils vont se souvenir, oui, mais on a quitté aussi cette terre où nous avions de quoi manger. Il y a toujours la nécessité de quitter lorsqu'on se met en marche. Et de fait, ce n'est pas nécessairement une attitude qui nous est facile, parce que se mettre en marche sans savoir où l'on va, pendant 40 ans errer dans un désert en se demandant par où on va en sortir, il en faut de la persévérance et de la confiance. Et on voit que le péché fondamental du peuple, c'est le manque de confiance. Est-ce que Dieu, finalement, ne se serait pas trompé? Est-ce qu'il ne nous aurait pas simplement raconté de belles histoires et puis nous a abandonnés en cours de route? Moi, le fait de se mettre en marche, c'est une invitation à raviver notre confiance à l'égard de celui qui nous appelle. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans l'Église, on dit toujours qu'on ne se donne pas à soi-même sa vocation. C'est une réponse à un appel. Et si je me donne à moi-même ma vocation, ça veut dire que je n'ai confiance qu'en moi. Si je réponds à un appel, ça veut dire que j'ai confiance en un autre. C'est ce qu'a fait Abraham, c'est ce qu'a fait Moïse. Et c'est ce qu'ont fait tous les disciples du Christ aussi, lorsqu'ils ont été appelés. « Viens, suis-moi !» Moi, je suis toujours frappé par ce que nous dit l'Évangile à ce moment-là. « Aussitôt !» Aussitôt. Ils laissent leurs occupations, leur famille, et ils suivent. Mais la puissance de l'appel, lorsque cet appel provient de Dieu, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il devait y avoir? C'est toujours une question que je me pose. Qu'est-ce qu'il devait y avoir dans le regard de Jésus qui, se posant sur ces pêcheurs du lac, leur dit « Viens, suis-moi » et aussitôt, il se lève. Qu'est-ce qu'il devait y avoir dans ce regard lorsque Jésus voit Lévi et lui dit « Allez, suis-moi » et Lévi, devenu Matthieu, suit. Vous voyez, la disponibilité à suivre alors qu'on n'a pas les sécurités nécessaires ou qu'on estimerait nécessaires. Oui, je te suivrai, mais dis-moi d'abord comment ça va se passer, par où tu vas me faire passer et qu'est-ce que je vais rencontrer comme épreuve et comment je vais les vaincre, etc. Non, marche. Et toute l'histoire, finalement, du peuple de Dieu, c'est d'être un peuple en marche. Et le Concile Vatican II a redécouvert, ça n'a pas été une nouveauté absolue, mais a redécouvert avec force cette cette identification de l'Église comme un peuple en marche. Et dès que le peuple s'arrête, il s'expose au danger de l'habitude. Et comme le vide ne séduit pas, eh bien, on se confie alors à d'autres divinités. Rappelez-vous, lorsque Moïse est sur le mont Horeb pour recevoir les tables qui vont permettre la vie en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres, les commandements, trouve un peu long, hein, le temps, bah, quand même, il faut bien s'occuper, alors on va se fabriquer un Dieu. On est assez doué pour se fabriquer des petits dieux qui satisfont nos désirs. Mais dès qu'on s'installe, on prend le risque de s'exposer à ce genre de danger. En marche. Et toute notre vie chrétienne peut être définie comme une vie de pèlerinage, justement. Il y a un philosophe allemand qui a beaucoup développé cela en parlant de l'espérance. Il a écrit un petit traité de l'espérance et les premières lignes de ce traité sont pour nous inviter à redécouvrir le vrai sens de cette dimension de notre vie chrétienne comme étant une vie en marche. Il nous dit, nous avons besoin de redécouvrir qu'est-ce que cela signifie que d'être un pèlerin. Le pèlerin, il sait quel est le but. Il ne l'a pas encore atteint. Et évidemment, lorsque le but sera atteint, ce sera le terme du pèlerinage. Donc, nous n'aurons plus là à être en marche. Nous serons définitivement dans la présence et dans la contemplation de celui qui est le présent par excellence, Dieu. Mais tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes en marche, en pèlerinage. Et il dit ceci, que c'est le mot de pèlerin qui finalement nous indique le plus justement la réalité de ce qu'est l'être chrétien. Et il va développer cela assez longuement. Alors, comme il aime bien parler latin, pèlerin, c'est le status viatoris, hein, le fait d'être en marche. Et il dit « être un pèlerin signifie être en chemin ». Et celui qui est en chemin, il sait qu'il est en marche justement vers un accomplissement. Il n'est pas encore dans l'accomplissement. Mais chaque jour, il fait un pas vers l'accomplissement. Et je vais vous citer juste un passage, ça serait trop long de vous lire tout le paragraphe. Pour l'homme qui vit son statut de créature comme le fait d'être en marche, hein, vous voyez, le statut de créature est lié au fait d'être en marche. Et le fait d'être en marche, c'est reconnaître que je ne suis pas encore pleinement accompli. Non seulement je n'ai pas encore rejoint le but de la marche, mais c'est la reconnaissance que moi-même, je ne suis pas encore pleinement accompli dans mon humanité. Donc, je vous cite ce que disait Joseph Pieper. Pour l'homme qui vit son statut de créature comme un être en marche, le ne pas encore être, il n'y a qu'une réponse appropriée à cette expérience. La réponse ne peut pas être le désespoir, car le sens de notre existence de créature n'est pas le néant, mais l'être, c'est-à-dire l'accomplissement. L'être nous est donné. Il nous appartient de l'accomplir. C'est la distinction nécessaire et complémentaire que l'on trouve dès les récits de création. Nous sommes créés à l'image et selon la ressemblance. c'est pas strictement synonyme. Le fait d'être créé à l'image, c'est le don de Dieu. Le fait de réaliser la ressemblance, c'est notre travail. Et vous voyez que dès l'instant de création, il y a cette affirmation d'une collaboration nécessaire entre Dieu et l'homme pour parvenir au plein accomplissement de l'humanité. Dieu nous fait ce cadeau, il nous crée à son image, et son espérance, c'est que nous grandissions jour après jour dans la ressemblance. Et d'ailleurs, saint Paul dira un jour, « Mais ayez donc entre vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient dans le Christ Jésus. Hein, ne vous contentez pas de dire Jésus, Jésus, Jésus. Ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient dans le Christ Jésus. » Mais c'est ainsi que s'accomplit progressivement tout au long du chemin cette ressemblance. Je reprends, la réponse ne peut pas être non plus la tranquille sécurité de l'avoir. Car là encore, le devenir de la créature frôle dangereusement le néant. Les deux, le désespoir et la certitude de la possession, sont en conflit avec la vraie réalité. La seule réponse qui soit conforme à la situation réelle de l'existence humaine, c'est l'espérance. Et la vertu d'espérance est justement la vertu de celui qui est en chemin. Elle est en réalité la vertu du ne pas encore être. Si ça vous intéresse de travailler la question, ce n'est pas un gros livre non plus, mais il faut y entrer quand même. Hein. Joseph Pieper, un grand philosophe allemand. Vous voyez, donc, l'espérance est liée à ce qui nous caractérise, être en marche. La question, c'est est-ce que nous marchons simplement les uns à côté des autres ou est-ce que nous marchons ensemble ? Marcher ensemble. Vous savez comment ça se dit en grec ? Synodos, synode, marcher ensemble, ça se dit synode. Donc un synode n'est pas fait pour nous inviter à l'immobilisme, mais il est là pour rappeler à l'Église et donc à chacun de ses membres que nous sommes appelés à marcher ensemble, ensemble. Le ensemble a tout son poids. Dans les axes que je vous avais donnés dès le premier jour, je crois que c'était le deuxième qui disait « Tous les baptisés selon leur charisme et leur ministère ». Voilà où va se réaliser le ensemble, selon leur charisme et leur ministère. L'objectif, ce n'est pas que chaque baptisé vive son charisme et son ministère pour lui-même, mais qu'il mette ce qu'il a reçu au service des autres. Et là aussi, le « ensemble » ne nous est pas toujours aisé. Ou alors, on aimerait bien choisir ceux avec qui on va être ensemble. Et pour reprendre une image que je reprends souvent, mais finalement qui a eu son acte de naissance, on pourrait dire ici, parce que c'est le Pierre-Julien Aymard, Saint-Pierre-Julien Aymard, fondateur des Pères du Saint-Sacrement, qui a découvert sa vocation ici au Lot. Il vivait pas très loin, à la Mure, et un jour qu'il prêchait à ses confrères, il leur disait « N'oubliez pas que vous n'avez pas la vocation de poteau indicateur. » Vous savez ce que c'est un poteau indicateur, hein? Il montre le chemin aux autres et lui, il reste sur place. Donc, ce n'est pas la spiritualité du poteau indicateur, c'est la spiritualité du marcher ensemble. Il ne suffit pas de dire, vous le savez bien, il ne suffit pas de dire à un enfant, c'est par là. Il faut le prendre par la main et l'accompagner. Si on se contente de dire le samedi soir ou le dimanche à l'enfant, va à la messe, puis qui voit que nous, on continue à regarder la télévision ou sa tablette, viens, on y va ensemble. Hein, le marché ensemble. Donc, pas simplement des poteaux indicateurs, mais marcher avec. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parce que nous allons marcher, nous allons découvrir le chemin. Nous, nous voudrions tout savoir du chemin avant de nous mettre en marche. Et le Christ nous dit, non, mettez-vous en marche et vous allez découvrir le chemin. Et donc, vous voyez que le point de départ de la mise en marche, c'est la confiance. Et c'est ça que les apôtres ont dû percevoir et que tous ceux qui ont rencontré Jésus ont dû percevoir en le rencontrant. En rencontrant Jésus, on découvre qu'on peut lui faire confiance, même s'il dit des choses surprenantes. Et que cette confiance, alors là, c'est là où ça devient surprenant pour nous, par contre. Cette confiance, elle n'émane pas nécessairement d'abord d'un discours, mais de la qualité d'une présence. Et c'est aussi une invitation pour nous. Susciter la confiance, c'est pas en montrant simplement qu'on sait plus ou qu'on sait mieux que les autres, mais c'est en offrant la qualité d'une présence. On pourrait reprendre l'image de Jésus, le roc ou le sable. Si nous avons une présence qui est sable, on risque de ne pas susciter la confiance. Mais une présence qui est roc, alors oui, on peut s'appuyer. Les difficultés seront là, mais on tiendra. Vous voyez, au début de la marche, c'est la confiance. Et ce qui veut dire qu'au début de la marche, puisque le mot confiance est quand même très proche du mot foi, au début de la marche, il y a cette question de foi. Qui suis-je pour toi? Et la réponse, ce n'est pas simplement la formule du catéchisme qu'il suffirait de répéter à la virgule près. La réponse, elle ne sera peut-être pas nécessairement exactement la même aujourd'hui que celle que nous avons pu donner il y a un certain nombre de mois ou d'années. Mais c'est à chaque début de journée que le Seigneur nous dit « Mais finalement, qui suis-je pour toi ?» Et si nous répondons comme Pierre, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors nous pouvons nous mettre en marche pour la journée. Et nous allons découvrir que tout au long de cette journée, sur le chemin, nous ne serons jamais seuls. Il sera là, comme il l'a promis, je suis avec vous tous les jours. Et dans le document final d'ailleurs du dernier synode, un des vœux qui est exprimé par tous les membres qui étaient là, c'est que notre Église apprenne à ses enfants à marcher en marchant avec eux. Non pas une Église poteau indicateur. Jésus, c'est par là. La vie éternelle, c'est par là. Mais une Église qui apprend à marcher, l'éducation, en marchant avec guide, vous retrouvez deux des attitudes de la Vierge Marie à l'égard de Benoît. L'éducatrice qui a enseigné, la guide qui a montré le chemin et qui attendait Benoît au bout de ce chemin. Donc, vous voyez que notre foi a un caractère de pérégrination. Et nous en découvrons chaque jour quelque chose de nouveau. La foi, ce n'est pas simplement la répétition de formules. La foi, c'est entrer dans ce cheminement, donc accepter le temps. J'ai déjà évoqué cela. Accepter le temps qui nous est nécessaire. Encore l'impatience. Rappelez que la patience est très proche de l'espérance, dit le document de la bulle d'indiction. Ne soyons pas des impatients. Acceptons à l'égard des autres la patience comme Dieu accepte à mon égard une certaine patience. La persévérance et la patience, ce sont deux qualités nécessaires lorsqu'on se met en marche. Et la patience comporte deux aspects fondamentaux de la foi, justement, la confiance et la fidélité. Donc, en marche. En marche, c'est faire le choix de ne pas se laisser prendre au piège de l'immobilisme, de la simple répétition. N'oublions pas que la vie jaillit du mouvement et que le mouvement, c'est justement l'expression de la vie. Alors, il ne s'agit pas de changer pour le plaisir de changer, pour montrer qu'on est à la mode. Ce n'est pas de cet ordre-là, bien sûr. Mais non à ces immobilismes qui nous paralysent, qui nous enferment dans des certitudes et qui nous privent de la rencontre avec ceux qui se sentent à l'extérieur. Il y a dans l'Évangile, il y a une rencontre qui est magnifique, que tous les catéchistes connaissent bien, la rencontre entre Jésus et Zachée. Le désir de Zachée, c'est tout simplement de voir Jésus de loin. Il a entendu parler de lui, il voudrait bien voir, mais qui est donc ce personnage? Et il monte sur son arbre pour voir Jésus passer. Ça lui suffit de voir Jésus passer. Jésus se saisit de ce simple désir. Ah, tu as simplement le désir de me voir passer, mais tu vas voir la surprise qui t'attend. Jésus se fonde sur ce premier désir. Et ce premier désir est nécessaire. Il ne s'agit pas de dire, mais enfin, Zachée, tu aurais pu quand même désirer autre chose. Non, ça suffit à Jésus. Ce désir de Zachée, de voir Jésus passer de loin, ça suffit. Je me saisis de ton désir et je vais le conduire à son accomplissement. Si toi, tu te contentes de me voir passer de loin, moi, dit Jésus, j'ai un besoin urgent de demeurer chez toi. Ah oui, les deux désirs qui se croisent. Ça suffit de loin? Non, chez toi. Et qui prend l'initiative? C'est pas Zachée, c'est Jésus. C'est lui qui interpelle Zachée qui croyait s'être caché. Descends. Descends. Et descends, c'est pas simplement descendre de l'arbre. Ça veut dire quelquefois descends de tes prétentions. Descends de ce que tu imagines être tes pouvoirs. Des sécurités, descend. Jésus ne se contente pas de le voir de loin, il veut le voir face à face. Et il faut, le verbe est fort, il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Voilà le désir du Christ à notre égard. Chaque jour, il nous dit « Il faut qu'aujourd'hui, je demeure chez toi. » Évidemment que Zachée est plus qu'étonné. Et évidemment que ce dialogue avec Zachée commence à agacer ceux qui s'étaient jugés légitimes pour l'accueillir quand même. Jésus entre dans la maison de Zachée. L'Évangile ne nous dit pas le détail du dialogue. Il nous dit simplement l'effet de la rencontre. Et l'effet de la rencontre, c'est le changement de vie de Zachée. Voilà pourquoi il faut que j'aille aujourd'hui demeurer chez toi, pour t'inviter à un changement, pour que tu sortes de ton petit trafic quotidien et que tu te mettes en marche vers autre chose. Oui, voilà la pédagogie de Jésus. Combien de fois il se saisit de nos désirs là où ils en sont. Et à partir de ce premier désir, il entre en relation avec nous, il se révèle à nous, et par sa présence, on va découvrir qu'il y a des choses à ajuster, à corriger dans notre vie. C'est ça peut-être finalement la mise en œuvre de ce qui nous est proposé dès le numéro 1, la fameuse rencontre vivante et personnelle avec le Christ. Bien sûr que Jésus, en nous rencontrant, est émerveillé de ce que nous sommes. Bien sûr. Mais c'est rare qu'il nous dise « et surtout ne change rien ». Ça n'a pas encore été traduit comme ça dans l'Évangile, je ne sais pas. Mais il y a toujours une invitation. Justement, c'est aussi le propre de l'être en marche, du ne pas encore être pleinement accompli. Il y a encore à grandir, il y a encore à croître dans l'émerveillement de la rencontre. Il y a encore à apprendre sur le chemin de la mise en pratique de l'amour. Il y a encore à découvrir sur ce que signifient les différentes béatitudes. C'est pas du premier coup, à l'écoute du premier enseignement de Jésus, que les disciples ont tout saisi. Il leur a fallu du temps pour le temps de la digestion ou de la rumination, puisque. Et ensuite, on produit quelque chose de qualité, une vie nouvelle. Vous voyez, la rencontre de Zachée avec Jésus, c'est l'exemple de cette rencontre vivante et personnelle, orientée vers un changement de vie. Et c'est le fruit de chacune de nos rencontres avec Jésus, orientée vers un changement de vie. Orienté vers un ajustement de notre vie à la vie du Christ. Parce que l'objectif, ça sera non pas simplement de répéter la fameuse phrase de saint Paul, mais de la vivre soi-même. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Il n'y a pas de raison que, puisque saint Paul a pu dire cela, nous ne puissions pas le dire. Mais il ne suffit pas de le dire. Le dire parce que nous le vivons. Ou parce que nous apprenons jour après jour à le vivre. Donc la foi, vous voyez, c'est un chemin de confiance et d'audace, un chemin d'amour et de fidélité. Et la foi, c'est justement cette qualité de celui qui est en marche et qui est comme attiré vers ce fameux « à venir », attiré vers cette rencontre avec le Seigneur de gloire. Dans ce fameux document, au numéro 2, le pape nous dit « Mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu ». Quelquefois, nous sommes tellement préoccupés par l'immédiat que nous oublions le but de la trajectoire. Et le but de la trajectoire, c'est la vie avec Dieu, c'est la contemplation de la gloire de Dieu, c'est la participation à la gloire de Dieu. Il nous faut quelquefois relever la tête, pas simplement regarder le bout de nos pieds, mais regardez un peu, levez la tête et regardez, mais vers où me conduit ce chemin? Vers la Jérusalem céleste. Vers la participation au repas des noces de l'agneau. Il ne faut pas oublier ce but ultime. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas simplement d'être un peu mieux que les autres. Le but de la vie chrétienne, c'est de parvenir à cette vie de communion dans l'éternité avec Dieu. Ce qu'on appelle l'eschatologie. Ce n'est pas un gros mot. ça désigne justement cette marche vers l'accomplissement. Alors là, oui, ce sera l'accomplissement. Là, nous serons pour toujours dans la gloire. Mais attention, mettre notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu, ce n'est pas justement simplement un projet pour après. Dieu ne nous dit pas « tu auras part à ma gloire quand tu auras fini ton pèlerinage sur la terre ». Il nous dit « dès ton pèlerinage sur la terre, tu as part à ma gloire ». Donc, avoir part à la gloire de Dieu, ce n'est pas une promesse pour nous endormir et pour nous faire accepter toutes les difficultés présentes. L'espérance de la gloire, je suis l'espérance de Dieu parce qu'aujourd'hui, je vais refléter sa gloire. Refléter sa gloire, ce n'est pas nécessairement parce que vous allez émaner de nous un rayonnement qui va aveugler les autres. Mais refléter sa gloire, c'est mettre en pratique le commandement que Jésus nous a laissé et qui résume et perfectionne tous les autres, le commandement de l'amour vécu au quotidien. La gloire, ce n'est pas pour plus tard simplement. La plénitude de la gloire, oui, mais déjà nous sommes dans la gloire. Et le fait d'être dans la gloire est lié à la grâce baptismale. Puisque dans le baptême, nous avons revêtu le Christ, dit saint Paul. Et essayons de pas trop vite changer de veste. Nous avons revêtu le Christ, donc nous sommes revêtus de la gloire du Christ. Pas nécessairement encore une gloire qui se voit en fonction des critères humains, mais ce rayonnement à partir de notre vie. C'est l'attitude, c'est la vie, c'est le témoignage concret des premiers chrétiens baptisés par les disciples qui posaient question. Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans la vie de ces gens-là? Et pourquoi est-ce qu'ils vivent ainsi? C'est sûr que si notre vie ne questionne plus ceux qui sont autour de nous ou éloignés, mais qui ne partagent pas notre foi, alors il faut peut-être nous réveiller. Je me souviens que pendant le Concile Vatican II, il y avait le cardinal des Indes qui avait fait cette déclaration qui avait beaucoup choqué, en disant « Le grand scandale du XXe siècle, c'est que les chrétiens vivent comme les autres. » Ça vaut la peine de réfléchir à ce genre de phrase. Le grand scandale, mettons le XXIe. Le grand scandale du XXIe siècle, c'est que les chrétiens vivent comme les autres. Si nous vivons comme les autres au point de nous être fondus dans la masse, si nous avons oublié que nous sommes dans le monde mais nous n'appartenons pas au monde, si nous nous sommes laissés prendre au piège de l'appartenance au monde, alors, de fait, nous sommes comme des sarments secs. Et vous savez ce qu'on fait des sarments secs. Ce n'est donc pas l'objectif que Dieu a pour nous. Et de fait, c'est aussi difficile de cette vigilance à ne pas nous laisser prendre, à ne pas nous laisser conformer au monde. Quand saint Jean parle du monde, c'est tout ce qui s'oppose à l'accomplissement de la mission du Christ et de la mission qu'il nous confie. Tout ce qui s'oppose à la manifestation de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Donc notre objectif n'est pas de quitter ce monde pour en inventer un autre, mais c'est de transformer ce monde et de le transformer à la manière d'un ferment. Et c'est la responsabilité première des laïcs baptisés. un peu en plaisantant, je dis la responsabilité première des laïcs baptisés, c'est pas de se dire quand est-ce que je pourrais avoir la vocation du curé, mais c'est de travailler à la transformation, c'est une citation du Concile Vatican II, c'est à travailler à la transformation des réalités temporelles. Voilà la première responsabilité du laïc baptisé. C'est en quoi il est ferment de vie nouvelle. La transformation de toutes les réalités temporelles. Il y a l'économie, il y a la politique, il y a, il y a les relations avec les autres États, il y a l'art, il y a la culture, il y a l'éducation. La première mission, elle est là. Et c'est aussi en cela que nous sommes l'espérance de Dieu. Il s'est dit, mais alors, ça y est, ils vont s'y mettre, oui. Nous avons reçu. Comment avons-nous fait fructifier ce que nous avons reçu? Donc, c'est ainsi que nous sommes dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle se manifeste justement à travers cette disponibilité à transformer notre monde pour qu'il devienne ce royaume dont nous demandons quotidiennement l'avènement. Que ton règne vienne. Oui, mais il ne va pas descendre du ciel tout seul, ce règne. Il va advenir, ce règne, parce que nous allons justement être ses collaborateurs actifs et efficaces au cœur du monde. D'où la confiance et l'audace. Vous voyez, il est de bon ton de mettre en évidence tous les aspects négatifs, en particulier tous les aspects négatifs que l'on peut repérer à travers l'histoire de l'Église. Moi, j'aimerais qu'un jour quelqu'un écrive un livre pour mettre en évidence tous les aspects positifs qui ont pu être réalisés grâce à l'engagement de l'Église à travers l'histoire. Que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la santé. Je pense qu'on n'a pas nécessairement à n'avoir que honte de ce que l'Église a pu mettre en œuvre. C'est ça, collaborer à la gloire de Dieu. C'est faire en sorte que l'amour de Dieu ne soit pas simplement un projet ou une belle idée, mais soit quelque chose qui transforme la vie du monde et la vie de chaque personne humaine. Nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et tous nos actes sont des actes constructeurs d'éternité, on pourrait dire. Tous les actes que nous accomplissons dans notre quotidien, par amour, sont constructeurs d'éternité. Vous voyez, se mettre en marche, c'est répondre à l'appel du Seigneur et lui répondre par tout ce que nous sommes. Nous ne lui disons pas « oui, je me mets en marche simplement avec une partie de moi-même ». C'est tout mon être qui se met en marche. Et c'est ce que nous dit dans un autre de ses textes, le pape François. C'est la radicalité de l'Évangile qui nous est rappelée. Le Seigneur demande tout. Il veut que nous soyons saints et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée et sans consistance. À nous de faire en sorte que notre existence ne soit pas simplement médiocre, édulcoré ou sans consistance. L'humilité, ce n'est pas la médiocrité. Et Dieu attend de nous que notre existence soit une existence qui a un poids, le poids de son amour. En disant ça, je ne peux pas faire la citation du jour de saint Augustin. Il faut comme ça, maintenant il en faut au moins une par jour de saint Augustin. Mon poids, c'est mon amour. pour vous détendre un peu, c'est une bonne nouvelle quand on monte sur la balance. Hein? Pas de régime à ce niveau-là. Mon poids, c'est mon amour. Ne soyez pas effrayés si l'aiguille monte. C'est plutôt bon signe à ce sujet. Pas d'existence médiocre, édulcorée ou sans consistance. Dieu ne nous appelle pas pour nous dire « tu es inutile ». Dieu ne nous choisit pas pour nous dire « mais tu sais, je n'ai pas besoin de toi ». Dieu nous appelle pour nous confier une part de la mission, de sa mission. Dieu nous appelle pour nous dire « tout ce que mon Fils a fait, tu peux le faire » avec le don de l'Esprit-Saint. Et Jésus nous surprend même en allant au-delà lorsqu'il nous dit « je vous enverrai l'Esprit-Saint et il vous permettra de faire des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. » Mais on n'est pas choisi pour une existence médiocre, édulcoré et sans consistance. On est choisi et consacré et envoyé pour accomplir les actes mêmes du Christ. Les actes du chrétien, ce sont les actes du Christ. Et ça nous rappelle le projet de Dieu à notre égard qui a, c'est vrai, surtout été développé par la théologie de l'Église d'Orient, de ce qu'on appelle, je vous cite, c'est plus simple, « l'homme est une créature qui a reçu le commandement de devenir Dieu. » Saint Basile le Grand. « L'homme est une créature qui a reçu le commandement de devenir Dieu. Tu as été créé à l'image, fais en sorte d'être à la ressemblance. » Ça signifie quoi, faire en sorte d'être à la ressemblance? Ça signifie qu'on pourra dire, en reprenant la parole de Jésus, « qui me voit, voit le Père. Qui me voit, voit le Christ. » Vous n'êtes pas simplement devenu chrétien, vous êtes devenu Christ au jour du baptême. Donc, qui me voit, voit le Christ. C'est ça la ressemblance. Et voyez que c'est bon finalement de savoir que nous avons un peu de temps devant nous pour y parvenir encore. Hein? Et que tout ne s'arrêtera pas à la fin de notre rencontre de ce matin. L'homme est une créature qui a reçu le commandement de devenir Dieu. Et Saint Grégoire de Nazianze écrit quant à lui, « Lorsque le Fils immortel eut créé l'homme, il lui donne pour fin d'être lui-même Dieu. » C'est toute la théologie de la déification. Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Pas Dieu à la place, hein, pas Dieu en concurrence, parce que là, on replongerait dans le premier piège de l'origine. Non, mais pour être un avec ce Dieu qui est tout amour et toute tendresse et miséricorde. Oui, c'est ainsi que dans notre humanité se manifeste la gloire de Dieu. En voyant le chrétien, je vois quelque chose du Christ. On dit beaucoup aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la valeur du témoignage de vie. Ben, qu'est-ce que c'est que le témoignage de vie? Pourquoi est-ce que ça nous surprend tant, ces témoignages de vie? Parce que là, à travers l'expérience vécue par quelqu'un, on se dit, mais on voit. Ben, c'est ce qui se passe avec chacune et chacun d'entre nous, même si vous montrez pas, si vous ne montez pas sur une estrade pour donner témoignage de votre vie, c'est ce qui se passe dans votre vie. On voit à travers vous la présence du Christ. C'est vrai que c'est pas nécessairement le matin au réveil en se regardant dans le miroir que ça apparaît d'une manière éclatante, mais tout au long de la journée, nous avons l'occasion de manifester cette présence du Christ qui est là. Et croire à la vie éternelle, c'est pas simplement regarder vers le futur, mais c'est croire que dès à présent, cette vie éternelle a commencé. Nous sommes déjà dans l'éternité. Oui, il y aura un passage à un moment donné, mais ce n'est qu'un passage. Nous sommes déjà dans l'éternité. Et le document de l'année sainte nous invite justement à raviver cette foi en la vie éternelle que nous proclamons tous les dimanches et pour toutes les solennités. Au numéro 19, il est écrit: Je crois à la vie éternelle, ainsi professe notre foi. L'espérance chrétienne trouve dans ces mots un pilier fondamental. Ouais, c'est vrai que souvent, peut-être la catéchèse ou la prédication nous invite à regarder sur l'aujourd'hui. On oublie peut-être cette perspective, mais qui est fondamentale, parce que si le pèlerin perd de vue le but de sa marche, il risque non plus d'être pèlerin, mais d'être un errant. Nous ne sommes pas des errants, nous sommes des pèlerins. Le pèlerin, il sait le but. Un pilier fondamental de l'espérance chrétienne, c'est l'affirmation de cette foi en la vie éternelle. Et le Concile va dans le même sens lorsqu'il écrit: Lorsque manque le support divin et l'espérance de la vie éternelle, la dignité de l'homme subit une très grave blessure. Parce qu'alors, il ne reste plus que l'immédiat, il ne reste plus que le matériel. Priver l'homme de cette aspiration, de cette découverte qu'il est fait pour la vie éternelle, c'est lui infliger une très grave blessure. Et c'est encore dans le document au numéro 19. Nous avons la certitude que l'histoire de l'humanité et celle de chacun ne se dirige pas vers une impasse ou un abîme obscur, mais qu'elle s'oriente vers la rencontre avec le Seigneur de gloire. Voilà notre certitude. Notre objectif, ce n'est pas la poussière ou la fumée, notre objectif, c'est la gloire. Notre objectif, c'est la participation à la vie même de Dieu dans l'éternité. Et cela devrait avoir quelques conséquences dans nos choix de vie, dans nos engagements. Et parfois, cela peut être courageux de choisir la fidélité plutôt que la facilité. Être conscient que tel ou tel engagement, tel ou tel choix de vie me conduit vers cette vie éternelle. Et que donc là aussi, être en marche et connaître le but, c'est aussi avoir une certaine vigilance pour ne pas nous laisser séduire par tous ces petits chemins qui vont se manifester et qui vont nous paraître beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus faciles et beaucoup plus tranquilles. Vous voyez que 40 ans à travers le désert, ça ne devait pas être toujours, c'est-à-dire, entre guillemets, de la rigolade quand même, hein. Et on peut comprendre qu'il y a eu ces désirs, ces tentations, mais on ne pourrait pas choisir un autre chemin. Tu es sûr d'avoir pris le bon raccourci, hein? Quelquefois, on prend des raccourcis, puis on se rend compte que ça nous allonge beaucoup la route, hein? Et la certitude que toute notre vie est orientée, voilà. Orienté vers quoi? Vers qui? Vers la rencontre avec le Seigneur de gloire. Et là, non seulement nous le verrons dans le face-à-face, mais nous nous découvrirons nous-mêmes. Non pas les ombres et les obscurités seront restées à la porte. Hein. Donc nous nous découvrirons nous-mêmes avec notre rayonnement personnel. Et le Seigneur nous dira, ben, tu vois que j'avais eu raison de mettre en toi mon espérance. Oui, nous sommes faits pour la gloire. Et encore une fois, cela a commencé dès l'instant même de notre baptême, puisque nous sommes revêtus de la présence du Christ de gloire. Et nous retrouvons là notre dignité, notre responsabilité d'enfant bien-aimé du Père, hein, cette construction lente, patiente, persévérante de la ressemblance. Je vous rappelle cette fameuse formule de Zindel, hein, nous sommes le Christ les uns des autres. Ils n'ont pas d'autre Christ que nous. Et là où est le Christ, là est déjà le royaume. Le royaume n'est pas simplement un avenir, un futur, là aussi c'est un présent. Et ce royaume, il se construit à travers justement ce que nous vivons au nom de l'amour, au nom de la fidélité à ce Dieu qui ne cesse de nous appeler pour marcher à sa suite. Et parce que nous allons marcher ensemble, nous allons justement pouvoir nous épauler, mais nous enrichir mutuellement. Nous n'aurons pas simplement le bénéfice de ce que nous avons reçu, mais nous allons pouvoir bénéficier aussi de ce que les autres ont reçu. Là aussi, c'est une dimension du ensemble. Ce que j'ai reçu, ce n'est pas pour le garder pour moi, et pour dire à l'autre, tu vois, toi tu ne l'as pas, moi je l'ai. Non. Ce que nous avons reçu, c'est pour dire à l'autre, mais regarde, je l'ai reçu pour t'aider à grandir. Et toi, ce que tu as reçu, c'est pour m'aider à grandir. Voilà le ensemble. Alors, ce ensemble, il nous invite aussi à quitter une certaine suffisance à l'égard de nous-mêmes. Je me suffis à moi-même, j'ai besoin de personne. Douce illusion, enfin je ne sais pas si c'est doux d'ailleurs, mais c'est une illusion. Non, j'ai besoin de l'autre, comme l'autre a besoin de moi. Remarquez, quand Jésus envoie ses disciples, il ne les envoie pas seuls. Ça commence par deux. Si je suis envoyé seul, le marcher ensemble n'a aucun sens. Si je veux construire ma communauté, mon église à moi tout seul, je ne suis pas sur le chemin du marcher ensemble. Toute la différence entre une église et une secte. Veillons à que ça ne déteigne pas dans le mauvais sens. En découvrir cette nécessité du marcher ensemble et donc cette nécessité de l'autre, avec ses différences, bien évidemment. Ne pas simplement compter sur soi-même. Et pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse en notre temps, mais il a besoin justement de chacune et de chacun d'entre nous et de ce qu'il va demander à chacune et chacun d'entre nous en vue d'un accomplissement. Peut-être que dans notre imagination, nous aurions pu penser, mais puisqu'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi de se débrouiller par lui-même, quoi ? Ah ben, ça, vous lui demanderez en le rencontrant. Il a choisi de passer par nous, justement. Et ça dit toute la confiance de Dieu à notre égard, toute l'espérance de Dieu à notre égard, mais aussi toute la responsabilité qui est la nôtre. Vous voyez comment cette perception de notre vie comme une marche avec, une marche ensemble, vers un but, la gloire, dit quelque chose de notre parcours chrétien.